Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mardi, René Friedman, spécialiste de la reproduction, propose avec ses invités de faire le lien entre médecine et société.
Discussion du soir, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Delphine Horwiller. Delphine Horwiller, vous êtes rabbin, ce qui déjà caractérise votre existence actuelle, en tous les cas. Et je vous ai invité parce que vous avez écrit deux livres. L'un qui s'appelle « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». L'autre, comment les rabbins font des enfants, sexe, transmission, identité dans le judaïsme. Et effectivement, dans la médecine de la reproduction, on est toujours confronté à un certain une influence de l'idéologie, de ce qu'on peut voir comme les valeurs qui vont guider les différents modes de reproduction, puisqu'aujourd'hui, on a quitté le terrain ancestral du simple rapport homme-femme avec beaucoup de cas de figure. Et donc, il me semblait intéressant de vous écouter, de vous poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, vous avez fait des études médicales ?
J'ai une licence de sciences médicales. J'ai étudié à Jérusalem il y a quelques années. Donc, j'ai fait 3 ans de fac de médecine avant de changer de voie.
Ça vous a pas plu ?
Ça m'a plu, mais je sentais que quelque chose d'autre m'appelait. En fait, j'ai fait pas mal de virages, mais je continue à penser que le rabbinat et la médecine ont plein de choses en commun.
Preuve, c'est qu'on est là. Vous avez été journaliste, et vous êtes toujours d'ailleurs, puisque vous avez Tenuva.
Une revue trimestrielle.
C'est une revue trimestrielle. Mais vous êtes passé par les grands cadres de la radio et de la télévision. Et surtout, donc, vous avez fait ce séminaire rabbinique à New York où vous avez été ordonné en 2008 rabbin.
Tout à fait.
Alors ça, c'est quand même pas banal. On le voit d'ailleurs dans un très beau film sur vous, qui a été fait par Elisabeth Lanchner, qui est passé à la télé, et qui montre un peu votre parcours. Alors, c'est vrai que c'est une position de femme dans un monde d'hommes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le rabbinat, qui déjà témoigne d'une certaine pugnacité. Ça vous a pas effrayé, les oppositions ?
Ça m'a pas vraiment effrayée, parce qu'en réalité, ça a été un long chemin, un long questionnement sur ma tradition, mon rapport au texte, le rapport à mes origines, qui à un moment donné m'a fait m'interroger sur cette tradition, la revisiter, me poser la question de ce que pouvait être ma place et ma voix au sein de cette tradition. Et plus j'étudiais, plus en réalité, il me semblait que rien n'empêchait à une femme d'exercer cette fonction. Alors aucun doute, enfin vous l'avez bien dit, sur le fait qu'il y a des résistances. Il y a des gens qui ont du mal aujourd'hui à l'intérieur de nos traditions religieuses. C'est pas propre à une religion, c'est vrai. C'est vraiment le point commun entre toutes les traditions aujourd'hui monothéistes. C'est leur problème avec les femmes et le féminin. Il n'y a pas de doute que pour certains, c'est un interdit, une gêne, une résistance particulière. Et pourtant, moi, il me semble que plus on étudie, plus on se rend compte que la voix du féminin demande à parler et à être parlé dans nos textes et dans l'exégèse. Et donc moi, j'ai pas l'impression dans ma démarche d'être vraiment révolutionnaire, même si certains y voient une démarche un peu rebelle ou contre la tradition. Moi, j'ai l'impression au contraire que...
Extension. On a l'impression que c'est une adaptation.
Oui, et puis qu'en réalité, nos traditions nous ont toujours invités à explorer les textes à la lumière des sensibilités inédites et contemporaines. Et je crois que la place des femmes dans nos sociétés aujourd'hui est telle que ce serait une aberration de ne pas leur permettre de fertiliser, et j'utilise volontairement ce mot de la reproduction, de fertiliser la pensée religieuse. Donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est du domaine de l'évidence que des hommes et des femmes s'investissent dans des domaines qui, certes, pendant longtemps, ont été exclusivement réservés à la voix masculine.
Comme beaucoup de choses.
Comme beaucoup de choses.
On va dire.
Mais ça se reflète particulièrement dans les exégèses dont on dispose, les interprétations. On voit que ces textes ont été lus uniquement par les hommes, pour les hommes. Pendant longtemps, on a parlé des femmes, mais on n'a pas parlé avec les femmes. Et ça s'en ressent, bien évidemment. Vous savez, tellement souvent, on me dit, on me pose la question, pourquoi nos traditions sont misogynes? Le sont-elles de façon irrémédiable, définitive? Je crois que c'est une fausse question. Je crois que ça n'a pas de sens de se demander pourquoi les interprétations au XIe, XIIe et XVe siècle ont été entre guillemets patriarcales, elles l'ont été parce qu'elles n'ont été faites que par les hommes et pour les hommes. Et aujourd'hui, on a une opportunité inédite d'avoir des voix masculines et féminines qui lisent nos textes et qui les interprètent.
Alors, il y a deux femmes rabbins.
Trois maintenant,
trois.
En France.
Voilà, très bien, welcome.
On se reproduit, vous voyez.
Voilà, ça. J'aimerais bien peut-être que vous expliquiez les différents courants du judaïsme, enfin, en termes un peu sommaires, mais pour comprendre, parce que voilà, c'est pas un tout aussi monolithique que cela.
Absolument, en fait. Le propre du judaïsme, c'est qu'il a toujours parlé par des voix plurielles. En réalité, si on ouvre une page de Talmud, un texte de référence du judaïsme, on se rend compte qu'on y dialogue sans jamais tomber d'accord. Il y a toujours eu des voix plurielles.
Le mot « vie » n'existe pas au singulier.
Oui, il y a tout plein de mots qui n'existent pas au singulier en hébreu. Par exemple, les vies ou les visages. On ne peut pas avoir un visage, on ne peut pas avoir une vie. Et dans le Talmud, il y a toujours des visages, des vies, des voix plurielles qui dialoguent et qui ne tombent pas d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant, vous entendez en français, on dit tomber d'accord, comme si l'accord était une chute et que le désaccord constituait une élévation. Et ça, c'est un principe juif ancestral. On n'est pas toujours d'accord, il y a des sensibilités plurielles et ça va se traduire par des sensibilités religieuses, effectivement, auxquelles vous faites référence. Il y a aujourd'hui des judaïsmes, mais pas un judaïsme. Il y a des gens qui se reconnaissent dans des sensibilités plus orthodoxes et d'autres dans des sensibilités plus traditionalistes, d'autres dans des sensibilités plus libérales.
Mais c'est qu'est-ce un peu que partout, ça veut dire? Dans toutes les religions d'ailleurs. Hein.
Oui, sauf
à part que là, il y a des mouvements qui sont constitués.
Il y a des mouvements et il n'y a pas de schisme, c'est-à-dire que tous se reconnaissent au sein du judaïsme. Simplement, on n'est pas nécessairement d'accord sur... Les différences vont porter sur l'interprétation de la loi et le rapport à la loi. Dans quelle mesure les lois et les interprétations passées font jurisprudence pour nous aujourd'hui? Dans quelle mesure doivent-elles être réinterprétées, revisitées? C'est là-dessus que vont porter surtout les différences entre les mouvances, on va dire, progressistes et les mouvances traditionnalistes.
Alors,
du judaïsme.
Alors, des noms pour que...
Alors, il y a par exemple le judaïsme orthodoxe ou le judaïsme du consistoire en France, consistorial, qui se reconnaît davantage donc, dans une mouvance orthodoxe. C'est un judaïsme donc, qui a un rapport particulier à la halakha, qui n'est pas nécessairement celui du judaïsme. La halakha, la loi juive, pardon. La loi juive, c'est-à-dire l'interprétation de la loi, les codes de pratique du judaïsme. Donc, à l'arrivée, la différence entre ces différentes sensibilités et le nom qu'elles portent, orthodoxe ou libéral, c'est un certain rapport à la loi et à sa flexibilité. Est-ce que la loi me contraint de façon définitive ou est-ce qu'elle est sujette à interprétation renouvelée? Par exemple, la question des femmes est une bonne illustration. Est-ce que parce qu'il n'y a jamais eu de femmes rabbins, cela me contraint à ce qu'il n'y en ait pas demain? Ou bien, parce qu'il n'y en a jamais eu, eh bien, j'ai le devoir aujourd'hui de penser de quelle manière il pourrait y en avoir. Voilà, vous voyez, c'est un rapport à la loi qui est un petit peu différent, un rapport à l'interprétation, à l'exégèse qui varie.
Mais même dans le mouvement libéral juif dont vous faites partie, par exemple, les hommes et les femmes sont ensemble à l'office et dans les situations de recueillement.
Oui, ça c'est une différence effectivement
dans la pratique.
C'est une
différence dans la pratique qui est énorme, alors que dans toutes les autres traditions juives, il y a une séparation soit à l'étage du dessus, soit à l'arrière.
Voilà, c'est une bonne illustration de lois interprétées différemment dans le monde orthodoxe. Hommes et femmes prient séparés. Dans le monde libéral, ils prient ensemble. Alors, en France, la mouvance, on va dire, orthodoxe est majoritaire, alors que par exemple, aux États-Unis, la mouvance libérale du judaïsme est majoritaire. C'est d'ailleurs intéressant de se poser la question de pourquoi, d'un point de vue historique, telle ou telle mouvance se développe à tel endroit. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'en France, les religions, au pluriel, s'expriment de façon beaucoup plus traditionnaliste qu'elles ne feraient, par exemple, de l'autre côté de la Manche ou de l'Atlantique, où les mouvances progressistes sont majoritaires, ou en tout cas beaucoup plus développées. Tout ça, c'est un héritage historique, mais qui est intéressant à explorer.
Oui, vous n'auriez pas pu être ordonné rabbin en France.
Non, il fallait partir pour ça à l'étranger, soit... Alors moi, j'ai étudié aux États-Unis, mais je n'aurais pu partir en en Angleterre ou en Allemagne, en Israël, en Amérique du Sud. Il y a des séminaires un peu partout dans le monde, mais en France, le judaïsme aujourd'hui, le séminaire rabbinique est de mouvance orthodoxe et n'accepte pas les femmes.
Alors du coup, bien sûr, ça nous fait penser à qu'est-ce que c'est que cette altérité qui produit du nouveau ou ne produit pas du nouveau. Est-ce que c'est la répétition intégrale de l'existant, avec des fois des incantations ou des textes extrêmement anciens, ou est-ce qu'on adapte, je dirais, en fonction de nos valeurs d'aujourd'hui qui ont changé, puisque les choses ont changé, la maternité, pour reprendre ce thème-là, et les filiations, n'est plus uniquement du fait du hasard, elle est maîtrisée en grande partie. Et puis il y a la rencontre avec l'autre, et vous avez dans vos livres Comment les rabbins font des enfants et en tenue d'Ève, d'Elvin Orfiller, vous avez creusé cette notion de l'altérité, produire du nouveau.
Oui, cette question me passionne. Je crois qu'elle me passionne à la fois religieusement, philosophiquement et même biologiquement. C'est-à-dire que la vie, on le sait, ne surgit que parce qu'il y a eu rencontre avec un autre, que parce qu'il y a eu fertilisation ou, entre guillemets, contamination dans cette rencontre. On reproduit jamais à l'identique, enfin, sauf dans un modèle de clonage. Et ce qui est vrai en biologie, je crois, est vrai aussi dans la pensée religieuse, même si bien souvent les discours religieux le nient ou ont du mal à l'admettre. C'est-à-dire que le discours, on va dire, traditionnaliste religieux, le plus connu, consiste à dire il faut reproduire à l'identique ce qui nous a été transmis, comme si on était fidèle à notre tradition authentique, en vraiment répliquant à l'authentique ce qui nous aurait été donné, comme si être fidèle à sa tradition, c'était faire ce que nos grands-parents et les grands-parents de nos grands-parents auraient fait avant nous. Et je crois que ça, c'est une lecture erronée, c'est un narratif qui en réalité est erroné, n'est pas fidèle à l'histoire. Je crois qu'en toutes circonstances, nos traditions religieuses se sont réinventées. C'est-à-dire qu'elles ont fait quelque chose d'un héritage, qu'elles ont métabolisé en prenant en compte des situations nouvelles, des situations inédites. Et il y a un narratif qui est un peu fictionnel, qui est celui d'une reproduction à l'identique, dont il faut être capable de prendre ses distances. Et je crois que, pour prendre l'exemple de la tradition juive, on y est constamment invité. Vous savez, le personnage du parent par excellence dans la tradition, dans les traditions monothéistes d'ailleurs, c'est Abraham. Abraham, c'est un personnage qui est donc un modèle de père pour tous les croyants du monothéisme. Mais la particularité d'Abraham, c'est que c'est un homme qui a quitté sa terre d'origine.
Qui a fait une césure, oui.
C'est un homme qui a rompu avec ses origines. Donc, le point de départ de sa destinée est de ne pas être fidèle à ses origines, d'amorcer un voyage, une coupure, une mise en route. Dès lors, se pose la question, est-ce que être les enfants d'Abraham, c'est reproduire à l'identique son chemin, ou est-ce que c'est nous aussi rompre, tout comme il l'a fait, avec des éléments de nos origines? Et je crois qu'on est toujours invité à se poser cette question. Je crois que être fidèle à ses origines, c'est bien souvent leur être suffisamment infidèle. Et je crois que cette dialogue entre fidélité et infidélité, eh ben, il raconte bien ce qu'est la reproduction d'un système et la possibilité pour lui de perdurer. Et encore une fois, je crois que c'est vrai en biologie, en médecine, et c'est vrai dans la pensée tout court. Il faut être capable d'être nourri de son temps, de ses rencontres, de l'altérité pour pouvoir poursuivre son chemin. Et c'est vrai que bien souvent, et là c'est un sujet qui me passionne particulièrement, vous en doutez, bien souvent la femme dans nos traditions et le féminin vient représenter cette porosité du monde, cette ouverture à l'altérité, cette possibilité que parce qu'on rencontre un autre, quelque chose de nouveau surgisse dans notre monde et garantisse l'avenir, garantisse la pérennité.
Delphine Orwiller, vous parlez dans vos livres de l'identité millefeuille.
Oui, je crois que c'est une expression que j'aime parce que on vit aujourd'hui, et on le constate tous, dans un temps de repli identitaire, dans un temps de communautarisme, de crispation identitaire. Et le propre de ces temps de repli et de crispation, c'est que beaucoup ont l'impression d'avoir soudain des identités monolithiques. Moi, j'ai eu l'impression, par exemple, ces dernières années, que de plus en plus souvent, les gens s'imaginaient que je n'étais que juive, tout particulièrement dans la France qu'on connaît aujourd'hui, les problèmes, les crises que nous traversons. De plus en plus souvent, les gens se définissent par rapport à une identité unique, monolithique, qui prendrait toute la place, qui phagocyterait tout. Or, moi, j'ai l'impression que mon identité, elle est protéiforme, mais comme celle de chacun d'entre nous. Je suis femme, mère, amie, rabbin, parisienne, pas tellement sportive. Enfin, voilà, je pourrais continuer à l'infini, comme ça, le déroulé des éléments de mon identité. Mais tout cela est en dialogue en permanence et je trouve qu'il faut faire très attention au propre de ce repli identitaire qui nourrit tant les fondamentalismes qui consistent à croire que l'on n'est que quelque chose.
Il n'y a pas qu'une image, on pourrait presque reprendre Pirandello sur les différentes composantes, ce qui fait que nous sommes, et avec des aspects et des facettes tout à fait différentes. C'est donc une ouverture. Et vous êtes effectivement une femme d'ouverture, Delphine Horviller, tout en maintenant une tradition que vous creusez, que vous adaptez, que vous enrichissez. Vous discutez aussi du regard et de la parole, en disant la voix d'une femme est une nudité. Et dans ce sens-là, justement, peut-on l'inviter à la radio ?
C'est un risque terrible que vous prenez, un risque pour vos auditeurs. En fait, la phrase à laquelle je faisais référence est une phrase tirée de l'exégèse traditionnelle. Il y a eu des sages, des exégètes dans le Talmud, qui suggèrent que la voix de la femme est une nudité. Et cette phrase a quelque chose de scandaleux, mais il faut être capable de l'interpréter, de la penser. D'abord, qu'est-ce qu'on dit des hommes qui interprètent cela quand on suggère que la voix de la femme est une nudité, c'est que effectivement, ils appréhendent, ils ont peur d'être exposés à ce que la femme représenterait par sa voix. Alors c'est ce que j'explore dans le livre En tenue d'Ève. Bien souvent, dans nos traditions religieuses, la voix de la femme, c'est la voix de la porosité, la voix de l'intériorité, comme si une femme en toutes circonstances exposait un peu trop d'elle-même, un peu trop de son intérieur à l'extérieur. C'est comme si on reprochait à la femme d'être un peu trop poreuse, pas assez hermétique. Et ça, c'est vrai dans toutes les traditions. Vous savez, je vous invite à relire, à revisiter même les contes qu'on raconte à nos enfants jusqu'à aujourd'hui. Moi, je raconte très souvent à mes enfants le conte de Peau d'âne, par exemple. Peau d'âne, c'est un conte fabuleux. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Peau d'âne ? Il raconte l'histoire d'une féminité, de cette jeune femme qui ne peut pas sortir de son château parce que, selon la version traditionnelle du conte, elle n'a pas de peau. Elle est à derme. Donc le problème du féminin, c'est que pour nos traditions, il a comme du mal à exister à l'extérieur, dans la sphère publique, parce qu'il est une muqueuse. Voilà. C'est comme si le féminin était un être à vif, muqueux, sans peau, voilà, ou qui secrétait en permanence, un être trop poreux. Et pour que Peau d'âne puisse exister à l'extérieur de son château, bien évidemment, il faut qu'elle enfile la peau d'un âne, c'est-à-dire la peau d'un autre, qui n'est pas n'importe quel autre, mais qui est un symbole de virilité, voilà, un symbole d'une virilité particulière que représente l'âne. Ça veut bien dire qu'on continue à transmettre à nos enfants, de façon bien souvent inconsciente, cette idée que la femme est un être de l'intérieur, de l'intériorité, et qu'il lui serait difficile d'exister au dehors, que ce soit par son corps, par sa voix, par son logos, par son engagement public. Et je pense qu'il est essentiel de réfléchir à cela.
Alors, ça renvoie à deux choses. D'une part, au voile, au voilé, au dévoilé. Et ça renvoie bien sûr aussi à la sexualité. Parce que cette protection pourrait être aussi... c'est assez incroyable, c'est vrai, quand on relit sous votre plume ce regard qui fait de la femme impureté, pécheresse, tentation, qui renvoie en fin de compte aux propres situations de l'homme qui voit cela.
Oui, parce que j'ai la conviction qu'en réalité, à travers le corps de la femme et la question du corps de la femme voilée, la question qui est posée est une question bien plus large pour une société. C'est la question de sa frontière, la question de ses limites, la question de sa zone liminale. Je crois qu'à travers l'obsession de l'impureté du corps des femmes, bien souvent ce qui est exprimé, c'est une angoisse de la contamination en général, pas de la contamination par les femmes ou de la contamination des femmes, mais de la contamination du corps social. Il y a bien des anthropologues qui ont travaillé sur ces questions, mais je crois que à travers la protection du corps des femmes, on essaie de protéger le groupe. Ces groupes qui ont très très peur que les femmes soient exhibées ou apparaissent sont bien souvent les groupes qui ont peur d'être contaminés par l'autre. Des groupes qui ont peur d'une rencontre avec l'altérité. Comment puis-je protéger mon groupe d'une, entre guillemets, contamination, bien souvent, ça se traduit par une obsession du corps de la femme couvert. Donc voilà, je pense que cette question du voile, elle est pas du tout anodine, c'est pas du tout une surprise que nous butions tant sur cette question aujourd'hui. D'ailleurs, toute tradition confondue, je pense qu'on va retrouver dans toutes nos traditions, pas juste dans l'islam qui vient à l'esprit de tous en ce moment, une problématique sur le corps de la femme couvert, impudique, sur la question de l'impureté. Il y a une obsession de l'impureté dans tous les discours fondamentalistes aujourd'hui qui est pas du tout anodine. Moi, je crois que il y a une nécessité, je dis souvent en ce moment, mais je pense qu'il y a une nécessité de revendiquer aujourd'hui un discours de l'impureté, de la bénédiction de l'impureté dans nos sociétés. C'est-à-dire que la force de nos sociétés ouvertes, c'est qu'il y naît, il s'y crée du mélange, une rencontre avec l'autre qui produit du nouveau. Et c'est ça qu'il nous faut modeler, qu'il nous faut revendiquer contre un discours obsessionnel de l'impureté et du corps couvert qu'on retrouve dans toutes les formules fondamentalistes de nos traditions.
Alors si on revient à l'origine du texte, la création Adam et Ève précédée en fait peut-être de Adam et Lilith. Alors à vous.
Oui, alors ce sont des chapitres absolument passionnants à relire dans la Genèse, parce que on a tous l'impression de connaître les premiers chapitres de la Genèse, mais en réalité, d'abord, ils sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on raconte aux enfants ou que ce qu'on croit connaître dans la formule populaire de la création de l'homme. En réalité, comment est créé l'homme à l'origine? Dans la Genèse, dans la Bible, on nous dit au chapitre 1 que l'homme est créé de façon d'abord androgyne, puisque l'homme est créé masculin et féminin à l'origine. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième chapitre de la Genèse, Dieu va plonger Adam dans une torpeur. En fait, c'est entre guillemets la première péridurale de l'histoire.
Même plus que ça, parce que l'anesthésie générale.
L'anesthésie générale, voilà. Et en tout cas, accouchement sans douleur va naître ou sortir à côté de cet homme et pas de la côte de cet homme. Ça, c'est une problématique de traduction.
Oui, ça vous insistez beaucoup d'ailleurs sur quelques erreurs de traduction
qui ont fondé des civilisations. Parce qu'il y a des conséquences terribles. Par exemple, cette terrible côte d'Adam.
Voilà, c'est pas la côte, c'est à côté en fait.
À côté, voilà, le mot tsela veut plutôt dire en hébreu à côté que côte. Donc Ève est créée à côté de
Adam.
Parce
qu'évidemment, à côté, ça veut dire identique en poids, en reconnaissance.
Et puis surtout,
la côte, ça veut dire je viens d'eux et donc je suis lié.
Je suis un élément de soutien et donc je suis un objet par rapport à un sujet premier. Alors que si je nais à côté, alors il y a une possibilité de relation sujet à sujet, qui peut-être aurait changé le cours de l'histoire. Qui sait, si on avait suivi cette traduction-là.
Qui sait Lilith, cette...
c'était un mystère. On n'en parle pas assez de cette liste. Il se trouve que lorsque cette première femme, donc Ève, naît à côté d'Adam, dans la Bible, Adam dit à cet instant, cette fois-ci, celle-ci est chair de ma chair, son de sang de mon sang. Donc, les commentateurs, bien évidemment, s'engouffrent dans cette phrase et disent pourquoi Adam, dit-il à cet instant, celle-ci Ève est sortie de moi. Et ils en concluent qu'il y a eu une proto-Ève, qu'il y a eu une femme avant celle-là, mais qui aurait disparu, qui se serait enfuie. Et donc, ce qu'on appelle le Midrash, la littérature rabbinique, va appeler cette femme Lilith, en faire une sorte de démon qui hante les nuits des hommes, une femme qui s'inscrit entièrement dans la séduction et qui aurait été, d'une certaine manière, la première féministe, entre multiples guillemets, de l'histoire. Par exemple, la littérature rabbinique raconte que Lilith voulait absolument faire l'amour avec Adam en étant au-dessus de lui et pas en dessous. Enfin, il y a des détails très étranges qui sont donnés par la littérature rabbinique qui suggèrent que cette femme voulait le pouvoir, qu'elle était une sorte de proto-féministe et que...
Une sorcière, quoi.
Voilà, un petit peu. Et on retrouve là, bien évidemment, dans l'opposition Lilith-Ève, un petit peu l'opposition entre la Madone
la maman,
et la...
La maman et la putain.
Voilà, exactement, cette opposition traditionnelle. Mais ce qui est intéressant en relisant la Genèse, c'est qu'on se rend compte que l'humanité première donc est fondée masculine et féminine et qu'ensuite, il y a une forme d'accouchement qui produit la femme, et à partir de cet instant, l'homme se définit au masculin. Donc je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire, mais c'est une inversion parfaite du récit. Une inversion parfaite du récit qui est qu'en réalité, l'humanité donne naissance à la femme et alors se définit au masculin, et pas l'inverse. La
חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי הצעוניה שומרים הסובבים בעיר החאובי כמעט ולא מצאתי אותו אך לא פה ממנו עד שאביו אל תוך עירי אל בית אמי ואל חדרי אל מיטתי הנך יפה רעייתי וספתותי חוט שני שינייך לבנות כמו אור הלבנה מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה ניסית על כנף ציפור גדולה הגיע לביתי כבר שבועות ביקשתי את שאהבה נפשי ולא מצאתי חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי הצעוני השומרים הסובבים בעיר החאובים כמעט ולא מצאתי אותו אך לא הרבה ממנו עד שאביו אל תוך עירי אל בית אמי ואל חדרי אל מיטתי הנך יפה רעייתי וספתותי חוט שני שינייך לבנות כמו אור הלבנה מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה ניסית על כנף ציפור גדולה הגיע לביתי הנך יפה רעייתי אני נגנב משתי עינייך ששרפות אותי כאש אל אהבה מזאת עולה מן המדבר מארץ רחוקה ניסית על כנף ציפור גדולה הגיע לביתי
הנגן במטה שתדאג אם שעצה ולתון הטפו וסר סיגנצה
Vous êtes sur France Culture, discussion du soir de René Friedman, en compagnie de Delphine Horviller. Cette émission est en partenariat avec le quotidien du médecin. Et c'est une musique que vous avez choisie, Delphine Horviller.
Oui, c'est un groupe qui s'appelle le projet Idan Reichel, qui cette chanson s'appelle Inach Yafa. Et alors d'abord, Idan Reichel chante en hébreu, mais dans son groupe il y a de nombreux Éthiopiens. Là, on a entendu un peu d'Amharique. C'est donc une chanson qui mène des cultures très différentes autour de paroles ô combien célèbres, puisque c'est un extrait du Cantique des Cantiques. Donc un extrait biblique réinterprété par un groupe contemporain. Je trouve passionnant la façon justement dont on peut se réapproprier ces textes anciens pour les revisiter, pour penser notamment la question du rapport entre les cultures, la question de la rencontre, la question du rapport homme-femme, puisque le Cantique des Cantiques, c'est tout le sujet de ce texte biblique.
Mais alors justement, c'est en même temps un sujet où la femme est extrêmement libre. Hein, d'exprimer ses sentiments, ses désirs. On est dans une modernité, je dirais. Lorsqu'on lit la traduction aujourd'hui du Cantique des Cantiques, on est dans une phase de poésie extrêmement contemporaine, qui est complètement en opposition avec, par exemple, cette injonction, en tous les cas cette phrase qui dit « Je remercie Dieu de ne pas m'avoir fait femme » dans la tradition juive. Ou bien dans le fait que, dans la religion catholique, évidemment, il n'y a pas de femmes qui peuvent être dans la hiérarchie, hein, dans le clergé, et la place des femmes également dans la religion musulmane, qui a des limitations très fortes, bien sûr. Donc, le Cantique des Cantiques, c'est assez étonnant, parce que on est vraiment à l'origine, et vraiment, c'est d'une énorme poésie extrêmement attirante.
Oui, c'est bien la démonstration, ce que vous venez de dire, qu'il y a les textes, et puis il y a ce qu'on en fait, il y a la façon dont on les lit, la façon dont on les interprète. Et effectivement, le Cantique des Cantiques est une bonne illustration d'une féminité libre, telle que la Bible peut la décrire. Le Cantique des Cantiques, c'est un poème érotique, en réalité, de rencontre ou de tentative d'approche entre un homme et une femme, un berger et une bergère. Et nos traditions, au pluriel, considèrent que ce texte est sacré, peut-être même le plus sacré de toute la Bible, mais vont nous inviter à tenir à distance la lecture érotique ou la lecture littérale pour plutôt l'interpréter comme une allégorie, par exemple, dans le judaïsme, on considère que cette relation homme-femme vient décrire le lien entre Dieu et le peuple d'Israël, Dieu sous les traits d'un homme et le peuple d'Israël sous les traits d'une femme. Alors, c'est intéressant d'abord parce que c'est comme une tentative de, encore une fois, de voiler la femme véritable, c'est tout à coup la femme du récit n'est plus vraiment une femme, mais l'allégorie d'un peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce peuple accepte, dans cette allégorie, de se percevoir au féminin. C'est-à-dire qu'il y a quand même une possibilité d'investir le féminin dans nos traditions religieuses. Et il faut être capable de voir qu'en plein de circonstances, finalement, on investit dans la modalité religieuse, les attributs du féminin. Moi, je donne souvent l'exemple, par exemple, dans la tradition juive, du fait que les hommes, et c'est bien souvent des hommes, le matin, posent ce qu'on appelle les téphilines, des phylactères autour de leurs bras et sur leur tête. Et en réalité, à cet instant, ils posent autour de leurs bras des bracelets, sur leur tête un diadème. Ils parlent d'eux-mêmes au féminin. Donc, il y a une reconnaissance que il y a une sacralité de l'attribut féminin et du féminin dans nos traditions religieuses, que les hommes peuvent reconnaître, mais la question est de savoir pourquoi ressentent-ils le besoin en cet instant de garder les femmes, les vraies, à distance, derrière des voiles, derrière des barricades ou à l'étage d'une synagogue. Pourquoi tenir les femmes à distance quand pourtant dans nos textes, le féminin et le rapport du féminin à Dieu est considéré comme sacré?
Delphine Horviller, vous parlez aussi dans vos livres de l'épisode de Judas, repris par Abdelawad Bouhiba, donc dans une autre tradition, par rapport au dénuement, j'allais dire dénuement, en fait, c'est la nudité aussi de la mère.
Oui, je suis passionnée par les récits des Mille et Une Nuits, et je pense, à vrai dire, que actuellement tout le monde devrait relire les Mille et Une Nuits pour ce que ce récit de la tradition arabo-musulmane nous enseigne de la violence et de comment lutter contre la violence sanguinaire. Finalement, ce que racontent les Mille et Une Nuits à travers bien des récits, c'est que on ne viendra à bout de la violence sanguinaire que si on écoute le récit des femmes, en l'occurrence celle portée par Scheherazade. C'est parce qu'elle raconte et qu'elle prend la parole et que sa voix n'est pas qu'une nudité, mais une capacité, voilà, à dire, à parler, à raconter, que la violence va pouvoir s'arrêter. Et le récit du conte de Judas est un récit très, je pense, intéressant à étudier. Ce conte, c'est l'histoire d'un pêcheur qui est à la recherche d'un trésor, mais il ne pourra accéder à ce trésor que s'il accepte, et c'est tout l'enjeu à un moment donné, de déshabiller l'image de sa mère. Derrière ce conte, il y a l'enjeu d'une libération de l'image maternelle. La conscience que dans bien des cultures traditionnelles, on a tellement encensé, sacralisé l'image des mères qu'on ne permet plus aux femmes d'être autre chose que cette image sacrée. Comme si le féminin se limitait à ces attributs-là d'épousailles et de maternité et qu'on ne libérait pas la femme pour être autre chose que cela. Et de quelle manière est-ce que cet enfermement dans la sacralité du maternel peut être une source de violence dans nos sociétés? Voilà, c'est ce que explore bien ce conte des Mille et Une Nuits, et j'ai essayé de développer dans mon dernier livre.
Alors, c'est vrai que la société a quand même beaucoup changé, en particulier le rapport de la femme à la maternité, puisqu'on a une maîtrise qui à chaque fois a eu du mal à s'installer dans les sociétés laïques, hein, celle de décider du moment où on peut être mère. Et donc, on assiste là à un changement quand même par rapport à la famille idéale ou des textes anciens d'une société patriarcale, puisque il y a des couples sans mariage, il y a des enfants qui sont hors mariage, il y a des divorces et des recompositions, il y a des enfants qui sont élevés par des parents non biologiques, il y a des couples de même sexe, il y a contraception, interruption volontaire de grossesse, fécondation in vitro, autoconservation des ovocytes. Cette maîtrise entre guillemets, parce qu'elle n'est pas complète, cette maîtrise, bien entendu, bon, cette tentative de maîtrise du corps de la femme, est-ce que c'est pas ce sur quoi s'appuie un véritable changement du rapport masculin-féminin?
Oui, sans doute, et on va retrouver ça dans toutes les traditions revisitées autrement. Ce qui m'a intéressé particulièrement dans mon dernier livre, c'est de me pencher sur ces situations de violence. Comment surgit la violence dans le texte ? Et le point commun que j'ai tenté de mettre en lumière, c'est que tous les grands violents de nos textes traditionnels sont des personnages dont la mère n'a pas été entendue, n'a pas été écoutée. Et c'est vrai presque sans exception. Par exemple, Cain, l'assassin, le premier, c'est ce que je développe.
Le premier enfant du monde.
Le premier enfant du monde qui va devenir assassin, donc il va tuer son frère. Ça commence très mal. Eh bien, a pour mère une femme qu'on a fait taire. Enfin, c'est très clair dans les interprétations des commentateurs. Une des punitions de Ève, c'est que dorénavant, elle va taire son désir. Quelque chose en elle reste dans le mutisme. Voilà. Et c'est vrai à chaque génération. Ismaël a pour mère Agar, qui est donc une esclave renvoyée dans le désert vers une mort certaine. Léa a pour enfant deux enfants violents. Enfin, je pourrais multiplier les exemples de ces femmes qu'on n'a pas entendues, quand on n'a pas écouté le projet, peut-être même le projet de parentalité. Et je pense que c'est extrêmement important dans le contexte actuel de se poser la question du lien entre la violence des fils et le silence des mères, en bien des circonstances. En tout cas, c'est ce que nos textes nous enseignent de mille manières et ce qui me semble urgent d'explorer aujourd'hui. Quant aux situations inédites qu'on vit aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est de voir que dans nos textes, finalement, bien des situations inédites ont été envisagées. Il y a par exemple, dans les textes bibliques, des situations de mère porteuse. Il y a dans les textes bibliques des situations de, entre guillemets, de donneur de sperme. Il y a beaucoup de situations tout à fait inédites qui ont été envisagées par les textes, avec parfois beaucoup de culot, et bien avant l'heure. Et je trouve ça absolument passionnant aujourd'hui de penser ces situations contemporaines. Vous savez, bien souvent, on entend des voix religieuses qui nous disent ces situations n'ont jamais été pensées. En réalité, elles l'ont été. Elles ont été pensées par les exégètes. Elles ont été même pensées avec beaucoup plus de culot et d'imagination de ce dont on est capable de faire preuve aujourd'hui.
Vous parlez de procréation d'e-bookment assisté.
Oui, alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est un très bon exemple de culot interprétatif. Il y a dans le Talmud et dans la littérature rabbinique des situations décrites de stérilité, par exemple féminine. Voilà, une femme est stérile.
Ah bah elles sont toutes les matriarches.
Les matriarches
sont toutes stériles.
C'est un point commun entre les matriarches. Mais dès que dans la littérature rabbinique, un peu plus tard, on va trouver un système de ce qu'on pourrait appeler de PMA. Comment venir en aide à ces femmes stériles? Et on va suggérer qu'il est possible de faire appel à des sortes de ce qu'on appelle un D-book, c'est-à-dire des sortes de fantômes de femmes qui vont aider dans la procréation les femmes stériles, pratiquement comme si elles contribuaient par leur présence ou par leur semence à ce qu'une grossesse soit soudain possible. Donc c'est pratiquement une conception à trois qui est envisagée par le texte, par les commentateurs traditionnels, entre un homme, une femme qui souffre de stérilité et ce qu'on appelle un D-book, un élément tiers qui vient apporter par sa présence, pratiquement par son fantôme, la possibilité que la grossesse arrive.
C'est vrai, Delphine Arvelin, mais en même temps, dans toutes les traditions, je pense par exemple dans les îles Tobriand, l'Australie, tout ça qui a été étudié, il y a toujours un élément extérieur, mais qui n'est pas matérialisé, qui est le vent fécondant, ou bien un dieu, ou bien un D-book. La différence, me semble-t-il, c'est que là, on est passé sur du biologique quand même, avec plus de difficultés à redéfinir la filiation.
Bien sûr, parce que la question de la semence même n'était pas envisagée de la même manière. Mais je trouve tout de même intéressant qu'à travers ces récits un peu mythologiques, comme vous le dites, qu'on va retrouver dans de très nombreuses cultures, se pose quand même de façon très concrète et par exemple légale la question de qui est cet enfant. Vous voyez, par exemple, le Talmud va demander s'il y a eu participation d'un tiers, dans quelle manière doit-il ou pas être présent dans la filiation, de qui est-ce qu'on reconnaît
Mais on reconnaît quand même, en particulier dans la tradition juive, que c'est il y a que la mère qui compte. Hein. On est sûr de la mère parce qu'on n'est jamais sûr du père.
En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que dans le cas d'un mariage qui ne pose pas de problème légal, la filiation se fait par le père. Dans le judaïsme, enfin, c'est un peu plus compliqué que simplement une transmission.
Oui, parce que le patriarcat quand même est très fort.
Patriarcat oblige,
Et d'un autre côté, c'est la mère qui transmet. Donc
la transmission est toujours finalement finalement assez complexe. Mais la tradition juive insiste beaucoup sur le fait qu'il faut toujours garder des traces de la filiation. Il y a une très forte angoisse de ne pas savoir d'où l'on vient. Vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez vous décrocher de ce qu'a été cet héritage, en tout cas partiellement, le remodeler, le métaboliser autrement, mais vous avez le devoir et la nécessité de savoir exactement d'où vous venez.
Vous avez dans vos livres évoqué quelques femmes insoumises. Je pense à Yentel de Isaac Bashevik Singer. Et j'aimerais que vous, Berouria, si vous pouvez commenter un peu.
Oui, il y a de très nombreux modèles finalement de femmes qui, par une voix inédite, vont incarner la possibilité d'une altérité, la possibilité d'autre chose. Alors Yentel, c'est un personnage bien entendu de fiction littéraire, finalement assez contemporain. Yentel, c'est cette femme qui veut étudier à la maison d'études et qui va se déguiser en homme pour pouvoir intégrer la yeshiva, la maison d'études. Barbara Streisand a merveilleusement incarné ce personnage au cinéma. Alors heureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déguiser et de porter la barbe pour aller étudier à la maison d'études, mais elle témoigne de ce qu'a été le désir étouffé de très nombreuses femmes à travers l'histoire d'acquérir du savoir. Acquérir du savoir, c'est acquérir du pouvoir. Celui, dans la tradition juive, c'est particulièrement vrai, celui qui n'a pas le savoir n'a pas le pouvoir, et donc accéder à l'étude est un enjeu majeur, un enjeu pour la société, un enjeu politique. Et puis il y a bien d'autres personnages, même dans le Talmud, vous parliez à l'instant de Bruria, c'est une célèbre sage, une érudite du texte, qui était capable d'enseigner la loi juive aux hommes, nous dit le Talmud, mais qui, elle aussi, a posé problème à certains. On voit comment, autour du Moyen-Âge, dans l'exégèse, l'interprétation médiévale, il a fallu, entre guillemets, se débarrasser de Bruria, parce que c'est un personnage controversé, un personnage subversif, comme si l'érudition féminine, en toutes circonstances et à travers l'histoire, avait été un sujet subversif, et il continue de l'être pour certains.
Pour terminer, j'aimerais que vous fassiez votre commentaire sur la notion de pudeur, qui est très fine dans l'analyse de vos textes. Donc la pudeur comme reconnaissance de l'altérité.
Je crois que c'est un mot dont on a fait aujourd'hui des exégèses assez terribles et finalement obscènes dans la définition qu'en donnent certains obsédés de cette pudeur qui ne concernerait d'ailleurs que le corps des femmes qu'il faudrait en toutes circonstances couvrir. Je crois que la pudeur est une notion qu'il faut revendiquer, mais une fois pour toutes la sortir d'une obsession vestimentaire. La pudeur, c'est dans nos traditions, quand on explore cette notion dans nos textes, la conscience qu'on ne peut jamais tout voir de l'autre, que en toutes circonstances quelque chose va et doit échapper à mon regard. Je ne sais jamais tout de l'autre parce qu'il n'est pas ma propriété, et m'imaginer que je peux tout voir de lui, c'est une forme de violence terrible à son encontre. Je ne vois pas tout de l'autre, je ne vois pas tout de moi-même, et en toutes circonstances mon regard est comme entravé. Et c'est cette limitation de mon regard qui n'a rien à voir en réalité avec une obsession de la couverture vestimentaire ou de la maîtrise du désir, mais au contraire une conscience que mon regard est entravé, quelque chose m'échappe, et c'est parce que cela m'échappe que la relation avec l'autre, de sujet à sujet, est possible.
Est-ce que c'est pas un hymne à la culture de la rencontre ?
Je crois que c'est une hymne exactement à la culture de la rencontre, telle que le Cantique des Cantiques qu'on a étudié tout à l'heure la raconte. Je me mets en route vers l'autre. Il y a du désir, il y a du manque, une volonté de rencontrer, mais jamais je ne l'atteindrai complètement parce que pour toujours, ce n'est que ce que Lévinas appelait une caresse. Je m'approche, je touche, mais je ne peux pas saisir.
Merci Delphine Horviller de ces poèmes dans votre bouche. Vous êtes sur France Culture, vous avez écouté l'émission des discussions du soir avec René Friedman et Delphine Horviller, avec Catherine Donnet, Delphine Baudet, Didier Lagarde. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec Isabelle Fromentin, une autre femme, autre débat.